Bonjour, toujours dans le cadre de nos émissions. Aujourd'hui, je vais vous parler du royaume de Madagascar, que certains appellent l'Empire Merne. C'est important aussi d'évoquer un peu l'histoire de Madagascar, un pays qui se situe entre l'Afrique et l'Asie, donc sur l'océan Indien. Un pays qui a une diversité à la fois ethnique et qui a une histoire aussi assez intéressante et dont nous allons parler, l'histoire donc des groupes ethniques qu'on appelle les Mernes, qui ont été les fondateurs du royaume Merne, qui a eu une expansion sur pratiquement l'ensemble du pays, en tout cas occupant plus de 2/3. L'histoire des Mernes est une longue histoire, hein. C'est des migrants qui seraient venus de la Malaisie, de l'Indonésie. On situe leur arrivée vers le 11e, 12e siècle. Mais à Madagascar, ils se sont installés d'abord sur les côtes, ensuite sur les plateaux centraux. Et c'est vers le 15e siècle qu'ils vont quitter ces régions côtières du sud-est pour s'installer véritablement sur les hauteurs centrales, donc ces montagnes de Madagascar, où se situe d'ailleurs aujourd'hui la capitale Tananarive. Vers 1530, on nommait Andiamène Manelou, fondateur de la dynastie des Andiane. La légende veut qu'il ait pris à ce sujet, qu'il ait appris à ce sujet à forger le fer pour fabriquer des sagaies, des haches et des coutelas. Ils avaient une certaine avance sur le travail de fer et ont pu avoir des armes un peu plus sophistiquées que les royaumes alentours, notamment les royaumes Sakalava ou Betsimisaraka de l'Est, les Sakalava étant sur l'Ouest. Ensuite, vers 1575 à 1610, correspond le règne de Ralambu, qui lui va nommer donc le royaume Imerne, Imerna, d'où la vue de la porte loin. Donc, la structure, il va structurer le royaume et il va l'étendre au détriment de ses voisins, qui sont les peuples autochtones qu'on appelle les Vazimba, qui seraient les peuples autochtones de Madagascar. Ralamou instaure aussi des impôts et il organise la noblesse en différents échelons. En différents échelons. Il va être succédé par son fils, Dinord Andia Manjak, qui lui va changer la capitale, la mettant à Analamang. Et Analamang, donc, c'est ça qui va devenir la future ville d'Antananarivo, qu'on appelle aussi Tananarive. Andia Mansenavalu, Valne, 1775-1710, aussi partage le royaume entre ses fils. Et pendant toute cette période, donc, l'Imerne subit alors près d'un siècle de division et de lutte intestine. Il a fallu vers la fin du XVIIIe siècle, notamment en 1787, avec l'avènement d'un roi du nom d'Andianam Puinmerne, qui va installer à Amboimang, qui marque un tournant dans l'histoire. Et il va non seulement unifier le royaume, mais aussi se lance dans des conquêtes. Donc, qui est Andjanampoune-Merne? Il est né vers 1740, certains parlent de 1745, et il a vécu jusqu'à 1810. Mais son règne se situe entre 1787 jusqu'à sa mort en 1810. C'est vers 1795 qu'il a réussi à s'imposer comme le seul souverain de l'Imerne et à l'unifier. Il transfère donc sa capitale, cette fois-ci, à Antananarivo, et il poursuit une politique de développement économique, la maîtrise de l'hydraulique agricole aussi, l'instauration de la corvée et des marchés hebdomadaires qui favorisent la croissance économique et démographique. Son ambitieux programme donc était d'avoir la mer pour seule limite de sa rizière. Rappelons aussi que c'est un royaume qui pratique beaucoup la riziculture, la culture du riz. Jusqu'à aujourd'hui encore, Madagascar est connu. Une des grandes réussites économiques de Madagascar, c'est vraiment la culture du riz, notamment pour les mers. Donc, il soumet ses voisins par la diplomatie ou par la force et nomme les principaux gouverneurs vassaux afin d'assurer l'ordre dans les territoires conquis. Dans toutes les régions qui sont habitées par d'autres ethnies, il va donc mettre des représentants qui vont gérer. Donc c'est dans ce sens que certains parlent d'un empire, puisqu'on n'est plus seulement dans le contexte de l'Imerne, on est vraiment dans une expansion de beaucoup d'autres régions de Madagascar. À sa mort en 1810, Andjanampoune-Merne laisse un état organisé dont l'administration s'étend sur près de la moitié de l'île. Il va être succédé par son fils, Dino de Radam, qui va être Radam premier, puisqu'il y en aura un deuxième. Et Radam va régner de 1810 à 1828. Pendant 18 longues années, il va perpétuer la politique d'édification menée par son père, mais il se distingue un peu par son ouverture sur l'Occident. Il faut rappeler que dès le 15e siècle, les Occidentaux, les Européens, avaient commencé à s'installer à Madagascar. D'abord les Portugais, on a leurs traces. Par exemple, la ville de Diego Soares, c'était un des établissements des Portugais. Le nom est très évocateur. Ensuite, il y a eu aussi les Français qui sont installés dans le sud, à Fort-Dauphin, 17e siècle. Et plus tard aussi les Britanniques. Donc, Radam va perpétuer cette politique-là et va s'ouvrir sur l'Occident. Sa période donc de 18 ans est très intéressante, un certain nombre de réalisations. Il va aussi accueillir des missionnaires protestants britanniques qui vont construire des écoles. Il va aussi essayer de décrire la langue merne en utilisant donc des caractères latins. Il aide aussi à créer des futures manufactures. Des jeunes malgaches également sont envoyés pour faire des études en Europe, par exemple en France ou surtout en Angleterre. À partir de 1817, les Britanniques qui s'efforcent de tenir échec les ambitions françaises sur la Grande Île reconnaissent Radam comme roi de Madagascar et lui dispensent leur assistance militaire en échange de l'abolition de la traite. On est dans une période où la traite est de plus en plus décriée et les Britanniques voulaient mettre fin à ce commerce négrier. Et Madagascar aussi était une des plaques tournantes, notamment des esclaves venus de Mozambique ou d'autres régions de l'Afrique de l'Est. Le souverain Merne met ainsi sur pied une armée de métiers, étant son hégémonie à l'Est, puis au Sud. Il parvient même à contrôler le nord de l'île et élimine les derniers postes français, sauf ceux qui sont situés dans les îles lointaines, comme par exemple l'île de Nosibé, ou Sainte-Marie, ou Bohara, etc. Ou Nosibohara, qui sont des îles, mais à part ça, il a vraiment réussi à prendre le contrôle sur l'île. Sauf une partie de l'ouest quand même qui lui a résisté, c'est l'ouest Sakalave, qui lui échappe. En 1828, la veuve de Radam donc, le succède et elle va monter au trône sous le nom de Ranavalna Première. Donc ici on a une reine, ça montre aussi que dans les royaumes ou empires africains, les femmes étaient là, elles pouvaient accéder au pouvoir et ça c'est un cas très important. Et Ranavalna a régné de 1828 à 1861, c'est vraiment une très très longue période de pratiquement 33 ans. Pendant ses 33 ans de son règne, Ranavalna Ier va lutter contre les tentatives d'invasion européenne. Donc lui, il est en déphasage avec la politique menée par son défunt mari. Il n'est pas très ouvert à accueillir les Occidentaux, les Français, les Britanniques aussi. Il va lutter contre les tentatives d'invasion européenne et suit le gel évangélisateur des missionnaires. Elle voulait protéger les structures traditionnelles de la société malgache ainsi que les coutumes des ancêtres. Donc, elle faisait vraiment le patriotisme, le respect de du culte des anciens et le refus de se convertir à des religions venues de l'étranger. Elle dénonce aussi les traités signés par Adam Ier, notamment avec l'Angleterre. Elle conteste le protectorat français sur l'île de Nosibé et repousse deux fois des tentatives franco-anglaises. Si elle persécute les chrétiens, la reine aussi sait retenir les rares Européens qu'elle juge utiles. Notamment, on mentionne quelques Britanniques, par exemple William Ellis et James Cameron, mais aussi en français du nom de Napoléon de Lastelle et Jean Lambert ou encore Jean Laborde. Cela était resté durant la période de Ranavalna Ier, travailler avec elle pour un certain nombre de projets. Mais pour le reste, elle était fermée à l'évangélisation, à la présence massive de l'occidentalisation dans l'île de Madagascar. En 1857, suite à la découverte d'un complot monté par le prince héritier, avec leur appui, les derniers Européens quittent la capitale. Dans le même temps, l'emprise de l'administration sur le pays se renforce au profit de l'oligarchie ouvrière par opposition aux Angevins nobles qui occupent la plupart des fonctions civiles et militaires. À partir de 1861, à la mort de Ranavalna Ier, elle va être succédée par son fils qui s'appelle Radam, hein, Radam II, qui engage une politique radicalement différente en rappelant les commerçants européens, les missionnaires protestants catholiques. Donc on est dans une période encore de retour. Hein. Radam fait comme son père et son grand frère, fait comme son père du moins, et fait rappeler les Européens, alors que sa mère, elle était contre. Mais des mesures maladroites vont être prises également, par exemple l'abolition des privilèges de la corvée et des droits de douane, importante source de revenus de l'État, et ça va entraîner une brouille grave avec son premier ministre, hein, qui s'appelle Raharu. Et ce qui va entraîner sa perte, puisque Radam II ne va pas rester longtemps au pouvoir. Il sera assassiné le 12 mai 1863, à cause donc de cette volonté de vouloir s'ouvrir. Ici, donc, on peut noter que l'État était aussi géré par la présence de premiers ministres qui avaient un pouvoir. Et à partir de cet assassinat, les premiers ministres sont de plus en plus présents. Donc là, Radam II est remplacé par sa mère, hein, Rabaud, qui est intronisée sous le nom de Rasuherna. Elle laisse bientôt donc la réalité du pouvoir au premier ministre, qui s'appelle Rani Ilariwooni, hein, qu'elle a épousé, mais aussi que ce premier ministre-là va épouser d'autres reines. Hein, par exemple, elle va épouser Ranavalna II et même Ranavalna III. Donc, ça montre aussi une certaine continuité et la force que représentait le premier ministre à l'époque. Il consacre le premier ministre Rani Ilariwooni se consacre à la modernisation de l'État et de la société. Un droit civil pénal est élaboré. Des ministères sont créés en 1868, une administration adaptée aux différentes provinces est constituée en 1881. À partir de cette période, nous sommes maintenant vers ce qu'on peut appeler le Scramble for Africa. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est la course donc à la colonisation de l'Afrique. Là, la France intensifie, hein, intensifie véritablement ses volontés de conquérir Madagascar, malgré les velléités aussi britanniques. Le royaume de Madagascar est à peu près donc reconnu par les puissances occidentales, mais il est affaibli par la cupidité de ses dirigeants et surtout le mécontentement des officiers. Donc, ces difficultés vont servir donc de prétexte, notamment les visées de la France qui voulait coloniser, notamment de Mahy, hein, Françoise de Mahy, ce député de l'île de la Réunion et porte-parole des colons en quête de nouvelles terres, présente Madagascar comme un nouvel Eldorado pour le milieu d'affaires français, parisien surtout. Et c'est ainsi qu'en 1883, invoquant des droits historiques sur le nord et le nord-ouest de Madagascar, les Français bombardent et occupent la ville de Mahajanga, qu'on appelle Mahajanga en malgache, et puis aussi la ville de Thomasina, actuelle ville de Tomatave. Et le traité de paix va être signé en 1885. Et à partir de ce moment-là, Madagascar devient un protectorat nominal français sur l'île de. Donc, la France maintenant va s'installer au détriment de l'Angleterre, mais ils ont eu fait des arrangements parce que l'Angleterre va laisser tomber Madagascar pour la France. En échange, va s'intéresser plus à Zanzibar, hein, l'île de Zanzibar dans l'actuelle Tanzanie, qui était une zone aussi très stratégique. Et l'Angleterre reconnaît ça en 1890, puis Paris donc laisse les mains libres, comme j'ai dit, aux Anglais à Zanzibar. En 1894, là, la France décide carrément de se lancer dans la conquête de Madagascar en vue de coloniser le pays. Et pour ce faire, la France va alléguer un prétexte, hein, il va parler du non-respect du traité signé en 1885. Et la France décide ainsi d'envoyer un corps expéditionnaire pour conquérir Madagascar. Et ce corps expéditionnaire est formé de soldats ici de l'Empire français. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus de la Kabylie. Et à partir de 1896, aussi beaucoup de soldats ouest-africains, appelés les Sénégalais, sans doute des tirailleurs sénégalais, mais aussi des Haoussa, recrutés après la conquête du Dahomey. Ils vont envoyer. Un des messieurs qui a participé le plus à la conquête de Madagascar et à sa colonisation, c'est le général Gallieni, qui était en Indochine, après retourné en France, puis envoyé à Madagascar en 1896, resté jusqu'en 1899, et puis il est retourné en France, et il va encore revenir pour rester jusqu'en 1905. En 1905, on estime que Madagascar est définitivement donc conquis. C'est une colonie française, il n'y a pas eu beaucoup de révoltes, sauf ce qui va arriver en 1947, où quelques révoltes qui ont eu lieu dans les régions périphériques, Mais grosso modo, la France va coloniser pendant cette longue période jusqu'en 1960, où, qui marque la période de l'indépendance du pays. Donc c'est ça l'histoire du royaume-mère de Madagascar, qui est un des royaumes les plus importants de la Grande Île. Rappelons que Madagascar est un grand pays, et il est plus grand que la France, la Hollande, la Belgique et le Luxembourg réunis. Pratiquement, on l'appelle la Grande Île africaine. C'est la troisième grande île au monde, et après, je pense, Bornéo et l'île de l'Australie, je crois. C'est vraiment très, 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 très grand. Voilà, c'était ça notre émission du jour sur le royaume de Madagascar. Et au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Merci, au revoir.